J'en viens maintenant au plaisir de l'agriculture qui ont pour moi un charme incroyable. Ceux-là ne sont pas interdits à la vieillesse et ils me paraissent les plus analogues aux mœurs du sage. Ils ont pour objet la terre qui, toujours docile à la main qui les gouverne, ne rend jamais qu'avec usure ce qu'elle a reçu, mais quelquefois avec moins, souvent avec plus de profit. Cependant, ce ne sont pas seulement les fruits qui me charment, c'est aussi la nature et la vertu de la terre. Dès qu'elle a été bien cultivée et qu'elle a reçu dans son sein entr'ouvert la semence dispersée par la main du laboureur et recouverte par la herse, elle la ramollit bientôt par son contact et sa chaleur, la fait enfler et fendre. Il sort alors une pointe verdoyante qui grandit peu à peu en se fortifiant dans sa racine. La plante s'élève ensuite en chalumeau noueux, reste quelque temps, enveloppée comme pour achever mystérieusement sa formation. Et s'échappant enfin de cette enveloppe, elle présente un épi de la structure la plus symétrique, muni d'un rempart de pointes piquantes contre les insultes des petits oiseaux. Que vous dirais-je de la plantation, de la naissance, de l'accroissement de la vigne ? Je ne puis me rassasier de ce spectacle. Je vous fais connaître ici les délassements, les délices de ma vieillesse. Je ne m'arrêterai pas à la force productive de la terre, qui, d'un aussi petit grain que celui de la figue ou du raisin, ou d'autres petites semences d'arbres de racines, forme des troncs si gros et des branches si étendues. Mais les marcottes, les plants, les sarments, les racines vivaces, les provins, n'ont-ils pas de quoi faire notre amusement à la fois et notre admiration ? Et la vigne, qui, faible de sa nature, rampe si elle n'a pas d'appui. Voyez-vous comme, avec ses virils qui semblent autant de mains, elle embrasse tout ce qui semble se présenter à elle ? Pour l'empêcher de s'épuiser en jets superflus, l'agriculteur promène habilement le fer sur ses sarments multipliés et vagabonds. Il recueille le fruit de ses soins. Et au retour du printemps, sur les ceps qu'il a épargnés, il voit, comme aux articulations des sarments, poindre le bourgeon où se montre bientôt la grappe. Celle-ci, fécondée par le suc de la terre et les rayons du soleil, grandit, est d'abord âpre au goût, s'adoucit ensuite en mûrissant, et à la faveur du pampre qui la couvre, jouit d'une douce chaleur sans être exposée à la trop vive ardeur du soleil. Quoi de plus riant, de plus beau que la vigne avec son pampre et ses raisins ? Et ce n'est pas seulement l'utile qui me plaît, comme je l'ai déjà dit, c'est aussi la nature même de la vigne et les charmants détails de la culture, tels que les longues files des chalas, les liens qui assujettissent le sarment, les provins, l'amputation des ceps inutiles et la conservation des autres. Et que dirais-je encore de l'art de faire des irrigations, des différents labours qu'on donne aux terres pour les rendre plus fertiles ? Parlerais-je de l'utilité des engrais ? Je l'ai fait dans mon ouvrage sur l'agriculture. Hésiode n'en dit pas un mot dans son poème sur la culture des champs. Mais Homère, qui vivait, je crois, plusieurs siècles avant lui, nous représente Laërte fumant et cultivant lui-même ses domaines pour adoucir les regrets de l'absence de son fils. Au reste, les moissons, les prairies, les vignobles et les arbres ne sont pas les seuls ornements de la campagne. Il faut y joindre les jardins, les vergers, les bestiaux, les pâturages, les essaims d'abeilles et les différentes espèces de fleurs. Outre le plaisir des plantations, j'ai encore celui des greffes. L'agriculture n'a rien trouvé de plus ingénieux. Je pourrais m'étendre davantage sur les amusements de la campagne, mais je sens que je n'ai déjà été que trop long. Vous me le pardonnerez. Je me suis laissé entraîner par mon goût naturel. Et puis la vieillesse est parleuse, j'en conviens, pour ne pas avoir l'air de ne reconnaître en elle aucun défaut. C'est au champ que Marcus Curius passa ses derniers jours après avoir triomphé des Samnites, des Sabins et de Pyrrhus. Lorsque je considère sa maison de campagne, qui n'est pas éloignée de la mienne, je ne puis assez admirer et son désintéressement et les mœurs de son siècle. C'est là qu'assis au coin de son feu, Curius rejeta l'offre d'une grosse somme d'or que lui avaient fait apporter les Samnites en leur disant « La gloire n'est pas d'avoir de l'or, mais de commander à ceux qui en ont. » Avec une âme si élevée, sa vieillesse pouvait-elle n'être pas heureuse ? Mais je reviens aux agriculteurs pour ne pas trop m'éloigner de moi-même. Alors les sénateurs, c'est-à-dire les vieillards, vivaient à la campagne. Lucius Quatius Cincinnatus fit trouver la charrue à la main quand on vint lui annoncer qu'il était nommé à la dictature. Et c'est par ordre de ce dictateur que Caius Servilius Abala, général de la cavalerie, surprit et tua Spurius Melius qui aspirait à la royauté. C'est de la campagne qu'étaient mandés au Sénat Écurius et les autres vieillards, et de là vient le nom de voyageurs qu'on donnait à ceux qui allaient les y chercher. Eh bien, la vieillesse de ces hommes qui se plaisaient à cultiver les champs vous paraît-elle misérable? Pour moi, je doute qu'il puisse y avoir une vie plus heureuse, non seulement parce qu'on y remplit un devoir, en cultivant un art salutaire à tout le genre humain, mais parce qu'on y trouve ce charme dont j'ai parlé, et l'abondance de toutes les choses nécessaires au culte des dieux et à la nourriture des hommes. Il n'en faudrait pas davantage, puisque cette opinion a des partisans, pour me faire entrer en grâce avec la volupté. En effet, un bon habitant de la campagne a toujours sa maison à provisionner des meilleurs vins, d'huile, même de gibier. Et tout abonde chez lui, le porc, le chevreau, l'agneau, les poules, le lait, le fromage, le miel. Le jardin est encore ce que l'agriculteur appelle un second saloir, et dans les moments perdus, la chasse vient ajouter à toutes ses jouissances. Que dirais-je de la verdure des prairies, des rangées d'arbres, de la beauté des vignes et des oliviers? Je dirais tout en peu de mots. Rien de plus agréable et de plus utile qu'une campagne bien cultivée. Et loin que la vieillesse nous empêche d'en jouir, elle nous y appelle au contraire et nous y convie. Où donc les vieillards pourraient-ils trouver un feu plus vif, un soleil plus ardent pour se réchauffer, ou des ombrages et des eaux plus salubres pour se rafraîchir? Que les jeunes gens gardent pour eux les armes, les chevaux, les javelots, la massue, la paume, la nage et les courses, et qu'à nous, vieillards, ils laissent seulement de temps de jeu les dés et les osselets. Encore, comme il leur plaira, nous n'en avons pas besoin pour être heureux. Les livres de Xénophon renferment beaucoup de choses de la plus grande utilité. Continuez, je vous y exhorte, à les lire avec application. Comme il s'étend sur les louanges de l'agriculture dans son livre de l'économie domestique intitulé « L'économique ». Pour faire sentir que nulle occupation ne lui semble plus royale que la culture des champs, il fait dans ce livre, raconté par Socrate à Critobule, que Cyrus le Jeune, roi des Perses, également grand par son génie et la gloire de son empire, ayant reçu dans sa cour à Sardes le lacédémonien Lysandre, homme d'un mérite éminent, qui lui apportait des présents de la part de ses alliés, le traita avec beaucoup de politesse et de bonté, et lui fit voir un parc planté avec soin. Et que Lysandre, enchanté de la beauté des arbres, de leur disposition en quinconce, de la propreté des allées bien battues et bien unies, et des odeurs suaves que les fleurs exhalaient, lui dit que, dans tout cela, il n'admirait pas seulement l'exécution qui en était parfaite, mais encore l'intelligence de celui qui en avait conçu le plan, et que Cyrus lui répondit « C'est moi qui l'ai conçu, La disposition, l'alignement sont mon ouvrage, et plusieurs de ces arbres ont été plantés de ma propre main. Et qu'à ces mots, Lysandre, fixant les yeux sur la magnificence asiatique, la pourpre, l'or, les pierreries, qui rehaussaient la beauté de ce prince, s'écria « Ah, mais c'est à juste titre, Cyrus, qu'on vous dit heureux, puisqu'en vous la fortune se joint à la vertu. Sans doute la vieillesse peut jouir d'une telle fortune, et l'âge n'empêche pas que nous ne conservions jusqu'au dernier moment le goût de toutes ces choses, surtout celui de l'agriculture. Nous apprenons que Marcus Calerius Corvus vécut jusqu'à 100 ans, et que dans ses dernières années, il habitait et cultivait les champs. Il y eut 46 ans d'intervalle entre son premier et son 6e consulat. Il vécut donc pour les honneurs autant d'années qu'il en faut pour avoir été à l'âge où nos pères ont fixé le commencement de la vieillesse. Et il fut plus heureux encore à la fin qu'au milieu de sa vie, puisqu'il avait plus d'autorité et moins de travail. L'autorité est la couronne de la vieillesse. Quelle ne fut pas l'autorité de Lucius Cellius Metellus? Quelle ne fut pas celle d'Attilius Catalinus, qui seul obtint l'honneur de cette inscription? Les nations, les peuples s'accordent à dire qu'il fut un grand homme. Vous connaissez l'inscription entière gravée sur son tombeau. Celui-là est à juste titre un grand personnage dont l'éloge est répété par tous les peuples. Quels hommes que les grands pontifes que nous avons vus! D'abord un Publius Crassus, ensuite un Marcus Lepidus. Est-il besoin de nommer Polémile ou l'Africain ou Maximus dont j'ai déjà parlé? L'autorité de ces hommes n'était pas seulement dans leur avis, mais jusque dans leurs moindres signes. La vieillesse, surtout lorsqu'elle a passé par les honneurs, jouit d'une si grande autorité que tous les plaisirs de la jeunesse ne sont rien en comparaison.
Mais souvenez-vous une fois pour toutes que je n'entends faire ici l'éloge que de cette vieillesse qui a ses fondements dans le premier âge. C'est dans le même sens que j'ai dit autrefois, avec l'approbation de tous ceux qui m'entendaient, que cette vieillesse-là était bien misérable, qui était réduite à se défendre par des paroles. Les rides, les cheveux blancs ne peuvent tout à coup donner l'autorité. Elle est le dernier fruit qu'on recueille des vertus de toute sa vie. Ce sont pour nous autant de marques d'honneur, quoique frivoles et communes en apparence, que de nous saluer, de venir au-devant de nous, de se retirer, de se lever devant nous, de nous accompagner, de nous reconduire, de nous consulter. Et tous ces procédés s'observent chez nous et chez les autres peuples, avec d'autant plus de soin qu'il y a plus de mœurs. On rapporte que le lacédémonien Lysandre, dont je viens de parler, avait coutume de dire que lacédémone était l'asile le plus honorable de la vieillesse. Nulle part, en effet, on a autant d'égards pour l'âge. Nulle part la vieillesse n'est aussi honorée. On dit qu'à Athènes, un jour de spectacle, un vieillard ne put trouver de place au théâtre parmi ses concitoyens. Qu'alors il s'approcha de l'endroit où siégeaient les ambassadeurs de lacédémone et que tous se levèrent pour faire place au vieillard. Comme toute l'assemblée applaudit, « Les Athéniens, dit un des ambassadeurs, savent ce qu'il faut faire, mais ils n'en font rien. » Notre collège, entre plusieurs usages admirables, en a qui sont d'accord avec ses principes. Le plus avancé en âge y opine le premier, et ce n'est pas seulement sur ceux qui sont plus élevés en dignité que les augures plus âgés ont la préséance. Ils l'ont même sur ceux qui sont revêtus du pouvoir. Quels sont donc les plaisirs des sens qu'on puisse comparer à ces prérogatives? Ceux qui en ont joui avec éclat me semblent avoir bien fini le drame de la vie et n'avoir pas échoué au dernier acte, comme font les acteurs novices. Mais, dira-t-on, les vieillards sont moraux, inquiets, irascibles, difficiles. Enfin, pour ne rien oublier, ils sont avares. Ces défauts viennent des mœurs et non de la vieillesse, Et encore, la morosité, comme ces autres défauts dont je parle, a-t-elle une espèce d'excuse qui n'est pas légitime à la vérité, mais qui semble plausible? Ils croient qu'on les méprise, qu'on les dédaigne, qu'on les tourne en ridicule. En outre, pour un corps débile, la moindre offense est douloureuse. Tout cela, cependant, s'adoucit par les bonnes mœurs et par la culture de l'esprit. Et la scène de la vie, comme celle du théâtre, nous présente souvent l'exemple des deux frères dans les Adelphes de Terence. Quelle dureté dans l'un et dans l'autre, quelle douceur! Ainsi va le monde. Il en est des hommes comme des différents vins qui ne s'aigrissent pas tous en vieillissant. J'approuve la sévérité dans la vieillesse, pourvu qu'elle soit modérée, comme tout doit l'être. Mais l'âpreté est toujours condamnable. Quant à l'avarice du vieillard, je ne la comprends pas. Quelle folie d'augmenter ses provisions de voyage à mesure que le terme du voyage est plus prochain. Reste maintenant la quatrième cause qui semble inquiéter et tourmenter notre âge, la proximité de la mort. Et en effet, elle ne peut en être fort éloignée. Oh, malheureux le vieillard qui, dans une longue vie, n'a pas appris à mépriser la mort. Elle doit être toutefois ou bien indifférente si elle est hantée notre âme, ou bien désirable si elle la fait passer dans un lieu où elle sera éternelle. Or, certainement, on ne pourrait trouver une troisième supposition. Que craindrais-je donc si je dois, après ma mort, ou n'être pas misérable, ou bien être heureux? Quel est l'homme, quelque jeune qu'il soit, ces insensés, pour assurer qu'il vivra jusqu'au soir? Que dis-je? Les causes de mort sont plus nombreuses dans le jeune âge que dans le nôtre. Les maladies sont plus fréquentes, plus aiguës, plus difficiles à traiter. C'est ce qui fait que peu d'hommes vieillissent. S'il y avait plus de vieillards, on vivrait mieux et plus sagement. Le bon sens, la raison, la prudence appartiennent à la vieillesse. Sans les vieillards, il n'y aurait jamais eu de cité. Je reviens à la mort qui nous menace. Pourquoi en faire le crime de la vieillesse si elle menace également les jeunes gens? Ah, Scipion, je n'ai que trop éprouvé, et dans la perte de mon excellent fils, et dans celle de vos frères destinés aux premières dignités, que la mort est commune à tous les âges. Mais le jeune homme peut espérer de vivre longtemps, ce qui n'est pas permis aux vieillards. C'est une espérance folle. Quelle illusion moins raisonnable que de compter sur l'incertain et de prendre le faux pour le vrai. Mais le vieillard n'a pas même de raison d'espérer. Eh bien, sa condition en est meilleure que celle du jeune homme, puisqu'il a déjà ce que celui-ci espère. L'un veut vivre longtemps, l'autre a longtemps vécu. Cependant, ô bon Dieu, qu'est-ce que c'est que longtemps dans la vie de l'homme? Prenons la plus longue, celle du roi des Tartessiens. Car j'ai lu quelque part qu'il existait à Gadès un certain Arglantonius qui régna 80 ans et en vécut 120. Pour moi, je ne vois pas une grande durée là où je vois une fin. Lorsqu'elle est venue, cette fin, tout le passé est perdu pour jamais. Il ne reste que le fruit des vertus et des bonnes actions. Les heures disparaissent, ainsi que les jours et les mois et les années. Le temps passé ne revient plus, et l'on ne peut connaître l'avenir. Chacun doit être satisfait du temps qui lui est donné de vivre. Il n'est pas nécessaire qu'un acteur joue toute la pièce pour être applaudi, qu'il joue bien son rôle et c'est assez. De même, le sage n'a pas besoin d'arriver jusqu'à la fin du dernier acte de la vie, et quelque courte qu'elle soit, elle est encore assez longue pour bien vivre. Que si vous vivez plus longtemps, vous ne devez pas plus en être fâché que l'agriculteur ne l'est, après avoir joui des douceurs du printemps, d'arriver à l'été et à l'automne. Le printemps est comme la jeunesse, il nous donne l'espérance des fruits dont la récolte est destinée à d'autres saisons. les fruits de la vieillesse sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, le souvenir et la jouissance de tout le bien qu'on a éprouvé dans la vie. Et nous devons mettre au rang des biens tout ce qui arrive selon la nature. Or, qu'y a-t-il de plus conforme à ces lois que de mourir quand on est vieux? Il semble, au contraire, quand les jeunes gens meurent, que la nature est en contradiction avec elle-même. Aussi, je compare leur mort à l'extinction de la flamme qu'on n'étouffe qu'à force d'eau, tandis que le vieillard, ainsi qu'un feu épuisé, s'éteint de lui-même et sans effort. Les fruits ne s'arrachent de l'arbre qu'avec peine lorsqu'ils sont verts, et tombent d'eux-mêmes quand ils sont mûrs. Ainsi, la mort est comme l'effet de la violence dans les jeunes gens et celui de la maturité dans les vieillards. Cette pensée m'est si agréable que plus j'approche de la mort, plus tôt il me semble, pour ainsi dire, que je découvrirai la terre et toucherai au port où je dois enfin arriver après une longue navigation. Chaque âge a son terme marqué. Il n'y a que la vieillesse qui n'en est point de fixe. Un vieillard jouit pleinement de la vie aussi longtemps qu'il peut remplir exactement tous ses devoirs. Il jouit de la vie en méprisant la mort. C'est par là que la vieillesse est plus forte et plus courageuse que la jeunesse. Je citerai pour preuve la réponse de Solon au tyran Pisistrate. Celui-ci lui ayant demandé sur quel espoir il se fondait dans son audacieuse résistance, « Sur ma vieillesse, lui répondit Solon. C'est finir la vie de la meilleure manière que de mourir avec l'entier usage de son esprit et de ses sens, et quand la nature qui nous forma a dissout elle-même son ouvrage. Ainsi que celui qui a construit un vaisseau, un édifice, le détruit avec plus de facilité. Ainsi la nature dissout plus doucement le corps humain qu'elle cimenta elle-même. » Le vieux ciment, d'ailleurs, se sépare facilement, et le nouveau coûte bien plus de peine à détruire. Il suit de tout cela que le vieillard ne doit pas trop tenir à ce reste de vie, mais qu'il ne doit pas non plus y renoncer sans motif. Pythagore défend d'abandonner le poste de la vie sans l'ordre du général, c'est-à-dire de Dieu. On cite une épitaphe de Solon, où ce sage déclare qu'il veut que ses amis honorent son trépas de gémissements et de larmes. Il voulait, je pense, vivre dans le cœur des siens. Mais je ne sais si Ennius ne dit pas avec plus de raison « Je ne veux à ma mort ni tristesse ni larmes. Pourquoi ?» C'est qu'il ne croit pas qu'il faille pleurer une mort que doit suivre l'immortalité. De plus, le sentiment de la mort, s'il est vrai qu'on se sente mourir, est de bien peu de durée, surtout pour un vieillard. Et après la mort, où ce sentiment est désirable, où il n'existe point. Dès l'adolescence, nos méditations doivent se porter sur le mépris de la mort. Sans cela, il est impossible d'avoir l'esprit tranquille. Il est certain que nous devons mourir, et incertain, si ce ne sera pas ce jour même. Or, craindre ce qui peut arriver à toute heure, est-ce vivre ? Une longue discussion à ce sujet me paraît superflue. Lorsque je me rappelle non seulement Lucius Brutus, qui sacrifia sa vie pour la liberté de son pays, les deux Décius, qui coururent de toute la vitesse de leurs chevaux à une mort volontaire, Régulus, qui alla souffrir les supplices pour tenir la parole donnée à l'ennemi, les deux Scipions, qui voulurent fermer de leur corps le chemin de Rome aux Carthaginois, non seulement Lucius Paulus, votre aïeul, qui paya de sa mort la témérité de son collègue à l'ignominieuse journée de Cannes, Marcus Marcellus, à qui son plus cruel ennemi voulut même pas refuser les honneurs de la sépulture, mais des légions entières de soldats romains qui, comme je l'ai consigné dans mes origines, partirent tant de fois d'un cœur déterminé et content pour le poste d'où elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Ce qu'ont méprisé les jeunes gens ignorants, grossiers, des vieillards éclairés le redouteraient-ils? Je suis frappé surtout de cette vérité morale que la satiété de tous les goûts et de tous les désirs fait la satiété de la vie. L'enfance a ses goûts particuliers. Peuvent-ils être ceux des jeunes gens? La première jeunesse a les siens. Sont-ils les mêmes que les goûts de l'âge viril? Et ceux-ci ne sauraient convenir à la vieillesse qui a les siens propres. Les goûts de ce dernier âge se perdent à leur tour, comme ceux des âges précédents. Et quand ce moment arrive, la satiété de la vie amène la nécessité de la mort. Je ne vois pas pourquoi j'hésiterais à vous dire ce que je pense de la mort. Comme j'en suis plus presque près que vous, il me semble que je vois mieux quelle doit être sur ce point notre opinion. Je crois, Publius Scipion, que votre père et le vôtre, Caius Laelius, ces hommes illustres mais plus intimes amis, sont pleins de vie et de cette vie qui seule en mérite le nom. Car tant que nous sommes retenus dans ces entraves du corps, nous ne faisons que remplir un devoir que la nécessité nous impose, une tâche dure et pénible. Notre âme d'origine céleste a été précipitée des hautes demeures et comme plongée dans la fange de la terre, lieu d'exil pour une nature divine et éternelle. Mais je crois que les dieux immortels ont distribué les âmes dans les corps humains pour donner à la terre des protecteurs qui, contemplant l'ordre des choses célestes, fussent capables de les imiter par la constante régularité de leur vie. Cette croyance n'est pas seulement le fruit de ma raison et de mes méditations, elle est fondée aussi sur la noble autorité des plus grands philosophes. J'apprends que Pythagore et ses disciples, qui étaient presque nos compatriotes, et qu'on appelait autrefois les philosophes italiques, n'ont jamais douté que notre âme ne fût une émanation de l'âme universelle, qui est Dieu. Je puis encore lire et admirer le discours que fit sur l'immortalité de l'âme la veille de sa mort, ce Socrate que l'oracle d'Apollon déclara le plus sage des hommes. Que vous dirais-je de plus? Je suis persuadé, je sens qu'une âme aussi active, une mémoire aussi étonnante, cette prévoyance de l'avenir, tant d'art et de science, tant d'inventions et de découvertes, ne peuvent appartenir à une âme qui serait mortelle. Notre âme est dans un mouvement continuel. Ce mouvement, qui est inhérent à sa nature, n'a pas eu de commencement. Il n'aura pas non plus de fin, parce qu'il ne peut s'abandonner lui-même. D'autre part, l'âme étant simple de sa nature et sans aucun mélange de substances hétérogènes, elle ne peut être divisée, et ce qui ne peut être divisé ne peut périr. Ajoutez que les hommes viennent au monde avec certaines notions qui paraissent innées. Ce qui en est une grande preuve, c'est que les enfants, en apprenant des arts difficiles, saisissent un nombre infini de choses avec une telle promptitude qu'ils semblent plutôt se les rappeler que les apprendre pour la première fois. Tel est à peu près le système de Platon. Dans Xénophon, l'ancien Cyrus dit en mourant: gardez-vous bien de croire, ô mes chers fils, que lorsque je vous aurai quitté, je ne serai nulle part ou que je n'existerai plus. Tant que j'ai été avec vous, vous n'avez pas vu mon âme. Mais vous compreniez par mes actions qu'elle animait ce corps périssable. Croyez donc toujours que cette même âme existe, tout invisible qu'elle sera pour vous. Certes, les hommages courant aux grands hommes ne leur survivraient pas longtemps, si la conviction où nous sommes que leur âme subsiste encore ne nous faisait honorer leurs souvenirs. Pour moi, je n'ai jamais cru croire que les âmes, qui vivent tant qu'elles sont dans des corps mortels, meurent aussitôt qu'elles en sortent, ni qu'elles perdent toute intelligence en quittant des corps sans intelligence. J'ai toujours pensé, au contraire, que dégagés alors de tout mélange corporel, et recouvrant la pureté originelle de leur nature, elles s'élevaient à la sagesse suprême. De plus, lorsque l'âme dissout l'homme, on voit clairement ce que deviennent les parties matérielles, car toutes choses retournent à leur source. L'âme seule, qu'elle soit unie au corps ou qu'elle en soit séparée, reste toujours invisible. Rien, certainement, ne ressemble plus à la mort que le sommeil. Or, l'action des âmes pendant le sommeil nous révèle leur divinité. Plus libres alors et plus indépendantes, elles nous donnent des pressentiments de l'avenir. D'où l'on peut concevoir ce qu'elles deviendront quand elles seront entièrement affranchies des liens du corps. Si telle est réellement notre destinée, mes enfants, honorez-moi comme un génie immortel. Et si l'âme doit périr avec le corps, vous, cependant, qui respectez les dieux, maîtres et conservateurs de toutes ces merveilles, vous garderez pieusement et inviolablement notre mémoire. Ainsi parle Cyrus au lit de sa mort. Voyons à notre tour, si vous le voulez bien, ce que nous devons penser de nos concitoyens et de nous-mêmes. Jamais on ne me persuadera, Scipion, que Paul-Émile, votre père, vos deux aïeux Paul et l'Africain, le père de ce dernier, son oncle et tant d'autres grands hommes, dont il n'est pas nécessaire de rappeler ici les noms, aient fait tant d'efforts et de si grandes choses pour vivre dans l'avenir, sans avoir un pressentiment que cet avenir ne serait point pour eux une chimère. Et croyez-vous, pour me flatter un peu moi-même à la manière des vieillards, croyez-vous que je me fusse livré les jours et la nuit à de si grands travaux militaires et civils, si ma gloire eût dû avoir les mêmes bornes que ma vie? N'aurait-il pas mieux valu, loin du tumulte et des affaires, couler mes jours dans le repos et le loisir? Mais mon âme, par je ne sais quel élan, se portait sans cesse vers la postérité, comme si elle n'eût vu dans la mort que le commencement de sa vie. S'il n'était pas vrai que les âmes fussent immortelles, verrait-on les hommes les plus vertueux aspirer sans relâche à une gloire immortelle? Pourquoi la mort du sage est-elle si tranquille et celle de l'insensé si agitée? N'est-ce pas que le premier, dont le regard est plus pénétrant, voit au-delà de la mort une meilleure vie, et que le dernier, dont la vue est trouble, ne l'aperçoit pas? Pour moi, je suis en vérité transporté du désir de voir vos pères, avec qui j'ai vécu et que je chéris. Et non seulement je désire d'aller rejoindre ceux que j'ai connus, mais ceux aussi dont j'ai ouï rapporter ou lu ou écrit les belles actions. Le jour de mon départ, il serait bien difficile de me retenir et je ne me soumettrais pas volontiers au rajeunissement de Pélias. Si quelque dieu me donnait la faculté de repasser de cet âge à l'enfance et de crier comme autrefois dans mon berceau, je le refuserais certainement et je ne voudrais pas être rappelé de la borne au point du départ. En effet, quels sont les plaisirs de la vie, ou plutôt, quels n'en sont pas les maux? Je veux encore qu'elle ait des plaisirs. Ils ont du moins leur dégoût et leur terme. Je n'aime pourtant pas à déprécier la vie comme d'autres l'ont fait souvent, et même des gens éclairés. Je ne me repens point d'avoir vécu, parce que ma vie a été telle que je ne crois pas être né en vain. Mais j'en sortirai comme d'une hôtellerie, et non comme de mon domicile. La nature ne nous a pas mis dans ce monde pour l'habiter toujours, mais pour y loger en passant. Oh, le beau jour que celui où je partirai pour cette assemblée céleste, pour ce divin conseil des âmes où je m'éloignerai de cette foule et de cette fange terrestre. Je partirai pour aller me réunir, et à ces grands hommes dont je viens de parler, et surtout à mon cher Caton, le meilleur des citoyens, le plus tendre des fils. J'ai mis son corps sur le bûcher funèbre, et il eût convenu au contraire qu'il y plaçât le mien. mais son âme, sans m'abandonner, sans me perdre de vue, s'est retirée dans ce séjour où elle voyait bien que je viendrais aussi. Si j'ai paru supporter mon malheur avec fermeté, je n'y ai pas été moins sensible. Seulement, je me consolais moi-même en pensant que notre séparation ne serait pas longue. C'est à ces espérances que je dois ce qui fait, dites-vous, Scipion, votre admiration et celle de Lélius, une vieillesse légère pour moi et qui m'est agréable, bien loin de m'être importune. Si je me trompe en croyant à l'immortalité de l'âme, je me trompe avec plaisir, et je ne veux pas qu'on m'arrache une erreur qui fait le charme de ma vie. Si je meurs tout entier, comme le pensent quelques petits philosophes, je ne sentirai rien et je n'aurai pas à craindre que les philosophes morts comme moi se moquent de mon erreur. Quand même nous ne serions point immortels, il est néanmoins désirable pour l'homme de finir en son temps. Les jours qui nous sont accordés ont leur terme, ainsi que tout le reste, et la vieillesse est comme le dernier acte du drame de la vie. Nous devons remercier la nature qui nous soustrait à la fatigue et peut-être à la satiété. Bien voilà ce que j'avais à vous dire sur la vieillesse. Puissiez-vous y parvenir, afin que l'expérience vous confirme ce que je viens de vous en apprendre.